RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct bien sûr, bienvenue dans l'After sur RMC Sport News en direct, nous sommes à la radio, nous sommes à la télé dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec l'équipe du mercredi. C'est comme à l'époque, il y avait le club Dorothée avec Corbier, avec il y avait qui encore dans le club Dorothée, il y avait Moustique, tout ça là.
Moustique.
Mais si dans les poules les musclés là.
Hein? Du tout.
Il y avait pas Moustique.
Pour toi. Non.
Il y avait qui
Dorothée,
dans les musclés alors?
Corbier, il y avait la fille Ariane.
Ariane, et voilà, non, mais dans les musclés.
Il devait y avoir.
Il y avait Framboisier.
Il y avait pas.
Jackie, c'était qui ça, Jackie?
Bah, Jackie, Rémi, ouais, Framboisier.
Voilà, aussi. Mais en même temps, j'étais déjà grand, moi. Ça m'intéressait pas trop.
Ah, c'est les Framboisier. Bretagne. Et Bernard Minet, bien
mais
sûr.
Mais moi, j'ai jamais été très fan. C'était mon époque, mais j'ai pas été fan.
En plus, c'était un peu pour.
Jérôme, il avait entraînement.
Excuse-moi, mais bon.
Moi, j'étais déjà dans l'analyse du football.
Bon, on avait 7 ans. Qu'est-ce que tu veux faire?
Toi, mais.
Donc, Daniel Riolo est là, qui ne regardait pas le club Dorothée.
Bah, et Jérôme Rotten. Désolé, mon vieux.
Bah, je ne regardais pas non plus le club Dorothée.
Non,
très bien. On avait le droit déjà de regarder des choses un petit peu supérieures, quoi, tu vois.
Ah, oui, toi, tu regardais les dossiers de l'écran.
Déjà.
C'est n'importe quoi.
Mais si.
Messieurs, dames, sommaire, jingle. Au sommaire ce soir de l'After, l'équipe de France, bien sûr, qui joue demain un match amical face à l'Islande, à Guingamp. Noël Le Graët, vous l'entendrez, s'est exprimé une nouvelle fois aujourd'hui concernant divers sujets, dont le sujet Benzema. On y reviendra, on en débattra au 32-16. Ensuite, la leçon tactique de Jérôme, qui nous expliquera ce soir comment le PSG doit jouer en attaque. Et puis les drôles de dames, comme promis, elles sont là ce soir, toutes les quatre. L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et puis, bien sûr, ce soir, dans les drôles de dames, concentration sur l'actu des clubs. Puisqu'il y aura une autre page drôles de dames consacrée aux sélections nationales dans le week-end. Donc, ce soir, comme avec, en France, on a toujours PLF
si
et
lundi,
tous les compagnies. Non, différent.
Ah,
tu sais
d'accord.
Pourquoi?
Non.
Parce qu'on va se concentrer sur toutes les petites histoires dont souvent nos drôles de dames n'ont pas le temps de nous parler.
On va parler lundi. Exactement.
Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous allez soit sur Direct Studio dès maintenant envoyer vos questions concrètes aux drôles de dames, ou bien sur notre compte Twitter, on va créer un petit hashtag DDD foire aux questions. Donc allez-y, envoyez-nous vos questions pour nos drôles de dames tout à l'heure. Et puis, tout à l'heure à 23h40, la suite de notre grande opération équipe type, équipe pip après Bordeaux hier soir. Qui a fait un tabac, hein, Bordeaux. Ça a continué toute la journée sur les réseaux sociaux, là. Les gars,
pour l'instant, c'est effectivement un fantastique divertissement, mais je m'y retrouve pas dans les équipes qui sont proposées par l'ensemble. Il y a beaucoup d'erreurs dedans.
Non, mais tu te retrouves pas, c'est pas grave. C'est chacun son équipe et son envie.
Ouais, mais non.
C'est pas grave que tu ne te retrouves pas. Je veux aller plus loin. Bah
après,
on s'en fout.
C'est sur
ton équipe, ils ont la
génération.
Oui, mais comme c'est la mienne qui est la bonne, je suis assez effaré de voir certains noms dans les équipes. Voilà.
Bon. En tout cas, ce soir, c'est Saint-Étienne qui est au programme, sachez-le. Et je vous prévois, je vous annonce d'ores et déjà une belle surprise tout à l'heure. On sera avec un joueur un ancien joueur qui pourrait bien figurer dans l'équipe type.
Ah.
Eh oui. Non, ce n'est pas Florentin Pogba, Daniel.
Non, mais
Jean-Michel.
Je ne dis rien pour l'instant.
Il est forcément dans l'équipe type, Jean-Michel, 7 titres.
Ça peut être notre ami Pierre-Auré Pellini.
Lui, je pense qu'il y est pas.
Ça peut être Jaco.
Ça peut être Jaco Santini. Tout à fait.
Mais à mon avis, il n'y est pas non plus.
Ça peut être Von Fulsinkel. Non, pas lui.
Il ne sera pas non plus
dans l'équipe pipe.
Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous donc
non,
tout à l'heure.
Pas assez claquant.
Dans l'équipe pipe. Non, il ne mérite même pas.
Von Fulsinkel.
Ouais. Non, mais il ne mérite même pas ce titre-là parce qu'on n'attendait pas non plus.
Je ne sais pas, on verra.
Allez.
Allez, ce sera tout à l'heure.
En tout cas, c'est l'équipe type la plus. Saint-Etienne est l'équipe type la plus facile à faire des 20.
Ah, tu trouves?
C'est la plus facile. Bah oui, parce que il y a une période qui écrase tellement tout le reste que le mec qui me met un joueur post 1980, bah c'est.
Bah on peut argumenter. Moi,
ça s'argumente absolument pas. C'est une erreur majeure.
Voilà. J'apprécie toujours ton ouverture.
Il n'y a pas d'ouverture
au dialogue et au débat.
À un moment, il y a des choses
c'est
qui sont justes. Mais non, mais il y a des choses qui sont justes. À un moment, il n'y a pas d'ouverture pour ouverture. Ah, je suis désolé.
Ouais, tu peux quand même écouter les arguments des autres.
L'ouverture pour l'ouverture, si un mec se présente chez toi, il me dit ouvre-moi la porte, je vais foutre le bordel. Bah non, bah fais preuve d'ouverture.
Comparaison totalement.
Fais preuve d'ouverture.
Qui ne veut rien dire.
Mais fais preuve. Si en l'occurrence, il met le bordel dans la pensée footballistique.
Si par exemple quelqu'un te dit, moi je veux Loïc Perrin, par exemple,
c'est pas possible.
Qui incarne l'esprit des Verts depuis 15 ans.
Mais c'est pas possible.
Soit dans l'équipe type.
Quand t'as eu Piazza et Christian Lopez, non. Je suis désolé.
Tu dois l'écouter.
Le mec qui se pointe chez toi.
T'es pas d'accord.
Le mec qui se pointe chez toi, il a le droit, il vient mettre un coup de pied dans ta télé. C'est pareil.
Il n'a rien à voir.
C'est pareil. Parce que le mec qui va dire ça, il insulte la pensée footballistique. C'est la même chose.
C'est n'importe quoi.
Il met le bordel dans la pensée stéphanoise. On peut pas. Quand t'as eu Piazza et Christian Lopez, et pourtant, j'aime beaucoup, Loïc Perrin. Mais il peut pas être dans l'équipe, je suis désolé, c'est pas possible.
Bon,
pas face
cas,
à des mecs qui ont été champions tous les ans pendant des années, qui ont fait finale de Coupe d'Europe, c'est pas possible.
Tous ceux qui veulent participer, y compris nos collègues au bureau, parce qu'après ils nous reprochent toute la journée, ouais, pourquoi tu m'as pas appelé hier soir, moi je suis bordelais, vous m'avez pas appelé pour faire l'équipe type. Eh ben, appelez-nous les gars, 32-16.
Sur Bordeaux, il y a eu 2-3 erreurs.
L'équipe de France, les gars, vous êtes prêts?
Oui.
On va écouter Noël Legret dans quelques instants. Pourquoi c'est pour Jérôme?
L'équipe de France, c'est domaine réservé, quand même.
Mais s'il a que des domaines réservés, les Gladiators.
Ah non, trois, on en parle jamais. En Garagoucho, on en parle jamais. Son domaine réservé, c'est les Bleus.
Mais les Bleus, pourquoi je suis domaine réservé? Parce que j'ai eu raison dans tout ce que j'ai dit avant la Coupe du Monde. Ou parce que je connais Didier.
Non mais
je
sais pas. Que tu connais Didier.
Jérôme est un génie.
Ah bah oui, parce que sinon t'as pas eu raison. Mais en fait, je vais te dire la vérité. Un jour, si tu veux, on va débattre calmement. T'as eu raison sur rien. C'est ça qui est formidable.
Par contre, toi, ce qui est sûr, c'est que toi, t'avais tout faux. Ça, c'est.
Ah non.
Ça,
tu sais ce qu'on va faire un soir?
Alors, moi, j'ai raison sur rien, Daniel. Imagine toi, avec les propos que t'as eu depuis 6 mois.
Donne-moi un exemple. Très calmement, donne-moi un exemple.
Je vais te dire Paul Pogba.
Paul Pogba. Voilà. Paul Pogba. J'attendais évidemment parce que
j'ai
tellement prévisible. Paul Pogba. Interview de Paul Pogba. Interview de Didier Deschamps. Interview de tous les mecs post Coupe du Monde. Il dit exactement tout ce que j'ai dit. Le mec s'est révélé pendant la Coupe du Monde à son poste et dans ce qu'il a fait. Ça a été dit par Adil Rami, Antoine Griezmann, Didier Deschamps. Tu veux, t'en veux d'autres ou pas?
Non, vas-y.
Alors, un autre exemple.
Continue.
Pogba, ça marche pas.
Non, mais continue.
À côté de la plaque.
Mais fait que je disais qu'il avait du talent, beaucoup de talent, que ceci, cela. Et que.
Ce qu'il fallait,
toi et d'autres, disaient,
Prenons un exemple simple. Avant la Coupe du Monde, tu étais, comme moi d'ailleurs, pessimiste sur le fait que la France gagne la Royale. Et Jérôme était optimiste.
Mais il est optimiste parce qu'il est supporter et que Deschamps est son pote.
On était pessimistes, mais ils ont gagné, on n'a pas eu tort.
Mais t'as pas tort de pas voir que les Bleus peuvent gagner. Personne les voyait, même eux ont mis du temps à s'y voir. Ils s'y sont vus qu'après le deuxième match.
Déjà, retire le fait de dire que je
suis plus crédible à l'arrivée. Tu dis il est supporter, c'est pour ça qu'il y croit. Non, pas du tout. Moi, je suis là juste pour analyser les choses, à sentir les choses,
à dire que les clubs ont un bon bilan.
C'est à sentir les choses. Voilà. Non. Toi, tu sens mieux.
La personne sur la seule personne sur Terre à l'avoir senti.
La seule?
Oui.
Ah non, je n'étais pas,
une autre personne
mais j'étais pas la
senti.
Seule à faire taire certaines critiques, hein, c'est tout.
Donne-moi une autre personne qui l'a senti.
Mais arrête, avec tes...
Bah alors, au bout d'un moment, tu peux pas parler d'un
match et tout, mais
il y a pas
donne-moi
Donc on balance ce qu'on veut et on donne pas de preuves.
Mais on est là, on est là.
Ça, c'est une argumentation.
On est combien?
Ta rhétorique là est énervante.
Parce que c'est nul.
Mais oui, tu sais pourquoi elle est énervante? Tu sais pourquoi elle est énervante, ma rhétorique?
Ça marche pas.
Tu sais pourquoi elle est énervante, ma rhétorique? Parce qu'elle met en lumière notre ignorance.
Parce que vous êtes incapable, excuse-moi.
Toi tu me donnes un exemple. Moi je te réponds, mais toi tu peux pas le faire. Toi tu peux pas le faire.
Arrête, c'est ta grande phrase. Daniel, s'il te plaît.
J'argumente.
Daniel, s'il te plaît. On écoute Noël Legret qui parle de Benzema. Ah, faut garder le sourire dans l'after, c'est ça l'essentiel.
Mais on s'en fout.
Stop, Daniel.
À un moment, je ne veux pas qu'on dise des choses qui sont fausses.
Non, elles sont vraies.
Noël Legret.
Qu'est-ce qui est vrai?
Parle de Benzema. C'est parti. On écoute.
Bah, écoutez, je pense qu'il y a pour aujourd'hui de très très bons joueurs. Il me semble que la Coupe du Monde est passée et je suis à peu près persuadé qu'il aura beaucoup de mal à revenir.
Voilà, donc Noël Le Graët a acté aujourd'hui, c'était dans Team Duga, que c'était terminé, au revoir, finito, Benzema ne reviendra plus. Voilà. Alors, est-ce que c'est normal que le président de la Fédé prenne position comme ça? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que finalement, c'est pas étonnant? Tout à l'heure, Willy Sagnol disait bon, de toute façon, Le Graët est là jusqu'en 2020, Deschamps a priori au moins aussi jusqu'en 2020. En 2020, Benzema il aura 34. A priori, ce serait étonnant de le voir revenir. Donc au final, ce que dit Le Graët, c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme?
Bah, il dit ce que tout le monde pense, de toute façon, qu'il va avoir du mal à revenir. Il a pas dit qu'il reviendrait jamais. Il a dit qu'il va avoir du mal à revenir.
Il a dit c'est terminé.
C'est pas lui qui fait les... Non, là, il a dit...
Il a dit c'est terminé dans West France ce matin.
Ah d'accord, mais là sur ce que
là, il a pas employé le mot c'est terminé. Bah non, enfin, ça voulait dire la même chose.
Il a juste dit je pense qu'il va avoir du mal à revenir. Bah oui, de toute façon, mais il le sait, hein, même Karim le sait, donc tout le monde. Mais
est-ce que c'est à lui de parler, enfin, de dire ça?
Bah on lui pose la question. On lui pose la question sur Benzema, sur Rabiot, tout ça, on lui a posé la question. Donc si botte en touche, on va dire il fuit encore. Donc là il répond quelque chose qui est juste. On va pas lui tomber dessus à chaque fois qu'il parle de Benzema. L'affaire elle est close, c'est comme ça. Il y a un problème entre lui et le sélectionneur dû à des épisodes passés. Voilà, c'est tout. Ils ont pas réussi à s'entendre. Didier a fait sa vie de sélectionneur sans Karim Benzema dans le collectif. Aujourd'hui, ça lui a donné raison parce qu'il est champion du monde. Voilà, c'est tout. Quand tu gagnes, c'est toi le plus fort.
Daniel, ton point de vue?
Benzema a répondu à Noël Le Graët par le biais de Twitter et je partage à 100% les propos de Benzema. J'aimerais bien, mais ça n'est pas possible, que Noël Le Graët soit un peu moins interviewé. Ça éviterait de l'entendre dire souvent des choses à mon avis inintéressantes. Moi, ce personnage ne m'intéresse pas, il ne m'a jamais intéressé. Donc j'ai pas envie d'en parler.
Alors je voulais juste le tweet de Benzema. Monsieur Le Graët, je vous demande de m'oublier, de me laisser tranquille s'il vous plaît. La France est championne du monde et là est l'essentiel, le reste n'est que futilité.
Merci. On lui pose la question à l'arrivée.
Give me a break.
Non mais à l'arrivée, le tweet je peux le comprendre parce que lui quand on lui rapporte ouais, Noël Le Graët encore parlé de toi, je peux comprendre. Mais t'es président de la Fédé, on te pose la question sur un joueur. Écoute, il va pas fuir la question. Déjà qu'il a fui pas mal de fois parce que les problèmes en interne, tout ce qui se passait, il voulait peut-être pas en remettre une couche. Là, le débat il est clos, quoi. Donc il répond. On va pas. Qu'est-ce que tu veux? T'aurais voulu qu'il dise quoi sur Benzema? Qu'il dise écoutez, peut-être qu'il va revenir.
C'est pas à moi de dire ce qu'il doit dire, mais il a plusieurs options. Il aurait pu dire c'est le sélectionneur qui choisit. Il aurait pu dire peut-être que dans deux ans il pètera la forme et puis on verra.
Bien sûr que c'est le sélectionneur qui choisit. C'est pas Noël Le Graët qui choisit.
Alors, l'équipe de France, outre le cas Benzema...
J'espère juste qu'un jour, Karim Benzema et son ex-agent Karim Jaziri, je suis pas sûr qu'il le fasse, mais ce serait bien qu'ils balancent un petit peu tout ce qu'ils savent sur le président de la Fédé. Ça me ferait plaisir, mais je suis pas sûr qu'il va y aller dans ce genre de polémique. Mais ça pourrait être intéressant.
Pendant ce temps-là, l'équipe de France est à Guingamp. Record aujourd'hui absolu de nombre de spectateurs pour un entraînement des Bleus. Ça c'est quand même pas mal, donc l'équipe de France fait toujours déplacer les foules et fait rêver. Ils étaient 16 400 aujourd'hui pour l'entraînement, hein. Entraînement public, au stade à Guingamp, donc c'est un record. Et là Didier Deschamps, il a fait un truc qu'il ne fait jamais, c'est qu'il a fait la mise en place devant le public. Donc du coup on a l'équipe. Voilà, c'est pas besoin d'être dans les arbres, merci Dédé. Donc la compo probable pour demain.
Quand on est un génie, on peut tout faire après.
Loris dans les buts, défense centrale Varane, Kimpembe, et sur les côtés il y aura Digne et Pavard. Au milieu on aura Nzonzi, Pogba et ensuite on aura les joueurs offensifs suivants, Thauvin, Griezmann, Dembélé et Mbappé. Voilà. Donc est-ce que ce sera plutôt 4-2-3-1
demande à Jérôme, c'est lui
4-7-2, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais c'est bien parce qu'il va donner du temps de jeu à Thauvin qu'on n'a pas eu beaucoup. Voilà, il est décisif avec Marseille, à lui de montrer aussi que le niveau international il l'a bien, même si il est barré par le talent de certains. Mbappé dans l'axe, c'est ce qu'on voit depuis un certain temps et à chaque fois il est assez performant. On en a parlé encore hier. Après et puis il y a la forme, les blessures, les petits pépins et puis le match le plus important c'est pas celui-là, c'est celui de mardi soir.
Mardi prochain contre l'Allemagne.
Exactement.
Au stade de
Après,
France.
Il faut continuer à gagner, la dynamique c'est toujours important en sélection, donc je pense qu'ils vont le faire demain.
Match à suivre demain soir sur RMC, évidemment. Alors, il a aussi répondu juste le raid quand même sur la polémique Guingamp. Alors, en fait, l'équipe de France était allée une fois à Guingamp. C'était contre les îles Féroé. Donc, il y a quelques années maintenant, un peu moins de 10 ans. Donc, c'est la deuxième fois. Alors, bon, ben voilà, l'équipe de France a par exemple plus joué à Marseille ces dernières années qu'à Guingamp, par exemple. Mais vous allez me dire, l'équipe de France n'est jamais allée à Nancy.
Exactement.
Voilà.
Après, c'est les choix, hein. Bon.
Elle est allée à Grenoble, elle est allée à Grenoble.
C'est des choix, c'est quel genre de choix d'après toi?
Pour toi, il y a polémique, le fait qu'il retourne à Guingamp?
Non, bah absolument pas, non, bah bien sûr, non, c'est... Il n'y a aucune polémique à ce que ça aille à Guingamp, à ce qu'il y ait autant de Bretons qui l'entourent, à ce que... Non, bah de toute façon, il est champion du monde, le président, il fait ce qu'il veut, hein. Puisque c'est comme ça que ça marche, la vie, faire ce qu'il veut, c'est comme le mec qui est élu président de la République, il est élu au suffrage universel. Donc il a l'onction populaire, après il peut faire ce qu'il veut, c'est bien connu, non?
Non, mais d'accord, mais consul à Los Angeles.
Mais organiser un match à Guingamp,
c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on a le droit de rien dire parce que quand tu gagnes, tu fais ce que tu veux.
Non, mais le raccourci, il est assez facile, Daniel, aussi, parce que Guingamp, bien sûr, que la proximité, Noël Le Graët, ancien président de Guingamp, nanana, ceci, cela.
C'est sûr, c'est pas du tout facile à faire, t'inquiète pas.
Ben non, mais bon, on peut aussi ne pas priver les Bretons et les Guingampais d'un match d'équipe de France quand tu as l'occasion de le faire. Franchement, c'est une belle.
Parce qu'il y a beaucoup d'autres villes qui ne voient pas les bleus.
Peut-être, mais en tout cas, c'est réussi pour l'instant, le terrain d'entraînement, il y a du moins la séance d'entraînement, c'était plein, ouvert au public, les gens se sont régalés, ils vont voir un bon match demain.
Il fait ce qu'il veut, hein, comme tu dis, hein. Il va gagner.
Après, attention, hein, parce que c'est pas le président qui se lève un matin puis qui dit tiens, on va aller à Nancy ou on va aller machin.
Ouais, non, les villes. Ça se passe pas au COMEX.
Mais non, mais il y a les villes candidates.
Ouais.
Les villes candidates. Mais nous, on aimerait bien recevoir l'équipe de France.
Noël Le Graët contrôle tout pour moi. Tout ce qui se passe à la Fédé.
Oui, enfin c'est pas lui qui va appeler le stade à Nancy en disant les gars, est-ce que vous voulez les bleus, je vous les envoie. Tu vois, c'est bon, il y a quand même des process qui sont je trouve pas ça si important que ça en fait au fond.
Ah non, favoriser les amis, de faire croquer
je parle de l'histoire de Guingamp.
Les postes, Guingamp directement. Je suis désolé. Si tu fais pas croquer là. Non, mais
allez, quelques réactions sur Direct Studio. En tout cas, c'est surtout l'histoire de la déclaration sur Benzema, hein, qui fait réagir ce soir. Qu'est-ce que j'ai il aurait mieux fait de se taire sur Benzema, me dit-on sur Direct Studio. C'est Luc qui me dit ça. De quoi se mêle-t-il? Benzema, de toute façon, n'a plus sa place, me disent d'autres. Donc voilà, le débat est toujours présent concernant Karim Benzema. En tout cas, le match sera demain sur RMC.
Les débats, ils sont présents. Ce serait bien, c'est pouvoir les faire. Quoi. Moi, j'attends que Jérôme me donne des exemples depuis tout à l'heure et on n'a pas le droit d'en donner. On n'a pas le droit de parler, donc c'est un petit peu pénible.
La France favorite, Maradona, ça me vient comme ça, tu vois. Bam. Mais il y en a d'autres qui vont me venir, hein, t'en fais pas.
De quoi?
Mais bon, Maradona, c'est vrai que. Bon,
de quoi?
France favorite. Non, avant la Coupe du Monde, tu vois, qui se sentait l'équipe de France favorite.
Dans le deuxième chapeau, une fois qu'ils avaient cité Brésil, Allemagne et Espagne. Comme tout le monde.
Tout le monde. Maradona, c'est pas ce qu'il a dit.
Même toi, t'avais cité ça.
C'est pas ce qu'il a dit, Maradona.
Il a dit quoi?
Il a dit encore mieux que moi.
C'était les numéros 1 des favoris?
Ah oui. Ah c'est ce qu'il a dit.
Bah, tu vas me retrouver ça, alors. Et si tu me le montres.
Pas de problème, je m'en souviens.
Je me montre, ok.
Il y en aura d'autres qui vont me revenir.
Dans un instant.
Mais t'as le droit de te tromper, hein.
Une leçon tactique de Jérôme Rotten.
Non, c'est pas vrai.
Eh oui. Il va vous la donner, cette leçon, Jérôme, dans quelques instants, concernant l'attaque du PSG. Et ensuite, on attraquera les rôles de dames ensemble, pendant une bonne heure. Vos questions sur le hashtag, DDD.
Mais moi, je les apporte.
Il
ne s'agit pas de répéter inlassablement ça.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à midi, on est là dans l'After. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, bien sûr, tout à l'heure, le foot européen au programme. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions pour les drôles de dames, elles seront là. Et tout de suite, la leçon tactique de Jérôme, qui est là. Jérôme.
On est là.
Jingle.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Et tu voulais parler de la tactique de l'attaque du PSG.
Ouais. Non, mais je voulais déjà revenir sur le match de PSG Lyon parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, hein. Je me suis chopé un petit peu avec Dugal lundi là-dessus sur le débrief du match. J'ai senti beaucoup de réticence de la part de certains, beaucoup de critiques sur le Paris Saint-Germain. Et donc je me suis replongé dans le match vraiment pour regarder parce que j'avais pas la même critique après la rencontre et surtout après la première mi-temps. Et j'étais au parc, j'ai donc très bien placé, proche du banc du Paris Saint-Germain. J'ai vu l'animation que voulait mettre en place Thomas Tuchel. J'ai vu aussi l'animation lyonnaise qui était de qualité, hein, l'animation défensive pour bloquer le Paris Saint-Germain. Et ce que je trouve bien du côté du Paris Saint-Germain sur ce début de saison, c'est qu'ils arrivent à s'adapter. Alors ils sont pas adaptés à Liverpool parce que le niveau était trop fort pour eux ce jour-là par rapport à l'investissement de certains joueurs, mais ça on l'a redit, on va pas revenir dessus. Mais sur ce qui se passe depuis ce match de Liverpool, il y a quand même pas mal de choses à mettre en avant sur ce que veut mettre Thomas Tuchel en place. Il veut mettre un gros pressing à la perte de la balle, il le dit, rester haut sur le terrain. Il l'a fait contre Lyon, mine de rien. Sur toute la première mi-temps, quand ils se retrouvent à 11 contre 11, hein, je te parle pas quand ils sont après l'expulsion de Kimpembe à la 35e minute, où là, naturellement, bah, tu peux moins faire ce pressing parce que t'as un joueur de moins. Mais à chaque fois, ils ont essayé d'aller haut, empêcher les premières relances lyonnaises. Alors, ce que Lyon a bien fait, c'est que sur ses premières relances, par rapport à des équipes de Ligue 1 qui ont moins de qualité technique, Lyon a réussi à faire déjouer ce pressing. Et dans un second temps, donc quand ce pressing il passe à travers le Paris Saint-Germain, ce qui donne une possession de balle très basse de la part des joueurs parisiens, parce que Lyon a réussi à mettre le pied sur le ballon et à se rapprocher du but parisien. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté défensif du Paris Saint-Germain. On met en avant le fait que Marquinhos peut pas jouer au milieu de terrain. Marquinhos, sa première mi-temps, il gagne tous ses duels. Vraiment tous ses duels, j'ai regardé, vraiment, il en perd pas un. Il vient couper pas mal d'actions lyonnaises proches du but parisien, mais pas mal d'actions lyonnaises où ils viennent percuter les Lyonnais parce que Marquinhos et Verratti ont fait un gros boulot, même Di Maria. Et ben moi ça, tout ça, cette animation défensive, j'ai bien aimé. Et ce qu'il faut mettre en avant sur cette première mi-temps, c'est le style Thomas Tuchel sur ce match-là, où très simplement, je pense qu'il a dit à ses joueurs par rapport à sa composition d'équipe, la possession de balle aujourd'hui, c'est pas là qu'on va gagner. C'est pas parce qu'on va avoir 70% de possession de balle contre Lyon qu'on va gagner. Au contraire, on risque peut-être de perdre. Donc, si Lyon arrive à nous bloquer, laisser la balle aux Lyonnais, c'est pas un problème. Mais à la récupération du ballon, c'est cette rapidité pour aller poser des problèmes sur le but lyonnais. Ils l'ont pas très bien fait, toujours bien fait en première mi-temps, parce que techniquement, ils ont raté des choses à la récupération de ce ballon. Mais mine de rien, quand je regarde à 10 contre 10 sur les 35 premières minutes, Lyon a été dangereux une fois, peut-être, il y a eu un arrêt de Buffon, c'est tout. Le Paris Saint-Germain, 4 ou 5 fois sur le but de Lopez, avec ses récupérations très hautes du as pressing, mais surtout dans les projections rapides avec un Neymar qui est vraiment l'électron libre. Et quand hier, je disais encore que Neymar, c'est le leader leader technique, le joueur que Thomas Tuchel veut chercher à la récupération du ballon, c'est lui. C'est pour ça qu'il l'a placé en numéro 10, qu'il le fait très bien. Et la transition, elle se fait très rapidement avec Neymar, et puis après avec les courses d'Mbappé, voire de Cavani, voire des milieux de terrain comme Di Maria qui peuvent plonger. Voilà. Donc moi, j'ai, mine de rien, été un peu plus réticent par rapport à ces critiques. Et au contraire, je trouve que la première mi-temps du Paris Saint-Germain a vraiment été bien gérée par Thomas Tuchel.
Daniel, d'accord ou pas?
Je sais pas trop. Bien géré, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que sur la demi-heure, les 25 minutes dont on a beaucoup parlé, où ils ont été mis en difficulté dans la possession plus que dans les occasions subies, tu veux dire que la réponse a été adéquate? C'est quoi? Si l'idée, c'est de considérer qu'à travers ce match-là, on a pu voir que, mais le problème c'est que c'est uniquement 25 minutes, je sais pas si ce sera vraiment une référence, que le PSG est capable de souffrir un petit peu sans encaisser de but et sans trop concéder d'occasion, ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première, qu'il ne l'avait jamais fait avant? Je suis pas sûr que, vu la tournure de ce match-là, la façon dont les Lyonnais ont pas pu se créer d'occasion, même dans leur séquence forte, je suis pas sûr qu'on ait vraiment découvert quelque chose et qu'on puisse dire que Tuchel, à ce moment-là, a vraiment maîtrisé quelque chose de particulier. J'arrive pas trop... Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de me dire que, de toute façon, le fameux 6 qu'on a réclamé pendant longtemps, il y en a pas. Et que ce fameux 6, il était important dans l'optique d'un 4-3-3. C'est-à-dire, en gros, la pointe basse du milieu. Mais que, au final, à moins que, parce que comme l'autre, il fait son labo permanent, il change tout le temps, il continue de changer. Mais, a priori, c'est pas un schéma qu'on verra. Donc, si, on le voit pas, ce 4-3-3, qu'on voit plus trois défenseurs, deux mecs dans les couloirs, un milieu un peu renforcé, finalement, il aura peut-être plutôt, et c'est ça qu'il faudrait souligner, trouver la solution pour s'en passer. Et d'ailleurs, si on regarde de près, il y a beaucoup de clubs allemands qui jouent pas avec les six. Moi, le premier qui disait on peut pas s'en passer. Le Barça, on joue avec un. Le Real, on joue avec un aussi. C'est difficile de pas avoir un mec costaud devant la défense. Dans l'école allemande, il y a pas mal d'équipes comme ça, on voit, qui jouent sans le 6 un peu costaud récupérateur. Je suis pas sûr que Marquinhos, de toute façon...
Mais ils veulent le mettre là, et c'est là, que, sur le match de Paris, par exemple...
Moi, je vois plus la doublette Rabiot-Verratti, c'est ça qu'ils veulent installer.
Non, mais là, je te rejoins.
Et à deux comme ça, bah ça va peut-être ça la solution. Et si c'est ça la solution, que ce soit, là en l'occurrence, c'était pas Rabiot, c'était l'autre, c'est plus ça qui est intéressant à voir dans un match contre une équipe forte, hein, parce que Lyon est quand même une équipe forte de notre Ligue 1, voire la plus forte même en dehors du PSG peut-être, quoi, ça se joue avec l'OM. Bah là, à ce moment-là, peut-être qu'on peut se dire bon bah ok, ils auront pas de 6, parce que j'ai un peu de mal à considérer que Marquinhos, je sais pas, en tout cas pas tout seul, quoi, soit il jouera à deux mais côte à côte, bah, comme à l'époque Monaco, là, avec les deux comme ça côte à côte là. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant.
En fait,
peut-être à observer dans ce que veut faire Tourelle en ce moment, quoi.
En fait, sur le match de Lyon, moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est que, mine de rien, ce milieu à trois, on le retrouve. Alors, on le retrouve dans un second temps quand Cavani sort, parce que là, Di Maria est obligé de resserrer dans l'axe aux côtés de Marquinhos et de Verratti. Et là, donc, il passe à trois pendant plus d'une mi-temps. Mais même quand il jouait à 11 contre 11, j'ai vu que sur d'un point de vue défensif, et là, c'est pour ça que...
On se contre 11.
Non, mais 35 minutes. Les 35 premières minutes, ils sont à 11 contre 11. Ils galèrent, mais cette fameuse pointe basse...
Ah oui, à 11 contre 11, je pensais à 0-0, j'ai pas compris. Pardon.
Cette fameuse pointe basse, Marquinhos était, si tu veux, plus dans l'axe qu'un Verratti. Défensivement, je te parle. Hein. Et très proche de ses défenseurs, mine de rien. Alors ça, après, c'est naturel, parce que c'est un défenseur central de base. Donc, naturellement, il recule plus que d'autres. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que défensivement, c'est ce rôle-là, c'est le rôle d'un Casimiro, si tu veux, au Real Madrid, pour aller dans l'extrême.
Il aura jamais
je ne te dis pas ça. Après, physiquement, je pense qu'il est capable de le faire, dans tous les cas, parce que, encore une fois, à regarder cette première mi-temps, il gagne tous ses duels. Donc ça, moi, j'ai pas de doute là-dessus.
Et ça veut dire quoi, il a gagné tous ses duels?
Bah, il gagne tout ce qui passe dans sa zone, il se fait pas prendre par un dribble, il se fait pas prendre des passes.
J'ai pas vu Simon, moi, sur cette période-là. Je trouve souvent, il rattrape, quoi. Il court et il rattrape. Je les ai vus quand même beaucoup en difficulté au milieu.
Non, mais je te dis pas qu'ils ont pas été en difficulté. C'est que ils acceptent, là, à deux, de jouer plus bas. Par contre, dans les premiers relances, là, c'est d'un point de vue défensif où moi, je trouve qu'il a vraiment fait son match. Après, qu'est-ce que t'attends d'un numéro 6 ou d'un milieu de terrain, comme ça à deux? C'est qu'aussi, dans l'orientation du jeu, il soit meilleur. Là, on le voit pas assez. Et là, par contre, c'est la
passe. Il va pas le devenir, hein.
Non, mais il peut, il a fait deux, trois fois cette passe vers l'avant. Mais l'électron libre dans cette première relance, c'est Verratti. Verratti, il passe de droite à gauche, on le voit. Et Thomas Tuchel, il lui demande ça. Et Marquinhos, un petit peu, pas de se cacher, parce que si le ballon est dans sa zone et qu'il peut se déplacer, ils vont lui donner le ballon.
On arrive tout le temps à la fin à la même histoire, tout le temps. Est-ce que sur un gros match, Verratti peut monter de niveau, parce que c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a le talent, c'est lui qui peut.
Ah, il en a l'envie,
il doit faire la diff au milieu. Donc est-ce que lui, il va pouvoir à un moment apporter la dernière passe? Il frappe pas, je l'ai vu encore rechigner à jouer long. Je trouve que c'est bizarre, quoi. Rechigne pas. Je l'ai encore vu, là. Je suis en train de regarder. Je le vois ce soir. Il est sorti, là, dans le match contre l'Ukraine.
Oui, c'est un match amical. Hein.
Bon, ok. Quand il prend le ballon, c'est toujours pareil. On le voit beaucoup. Il touche beaucoup de ballons, mais il a du mal. Il a du mal à donner. Et pourtant, moi, je l'ai trouvé bon, hein, aussi bien contre Lyon et tout.
Non, il est dans le bon état d'esprit.
Bon, ouais, ok. Mais c'est quand il y aura un gros, est-ce que tu peux élever ton niveau? Est-ce que au milieu de terrain, tu vas pouvoir résister une pression plus forte? Donc on peut refaire le match contre Lyon 1000 fois. Il y a quand même cette période où ils sont un peu en souffrance au milieu quand même.
Prenons l'avis de Johan qui est là au 32-16 et qui a écouté attentivement le débat. Johan, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs.
Est-ce que tu partages l'analyse tactique de Jérôme là?
Eh ben malheureusement pour le coup pas vraiment, parce que on oublie un élément extrêmement important du match, c'est que normalement dans la zone de Marquinhos et de Verratti, il devait y avoir Fekir qui s'intercale, qui est quand même un joueur de très haut niveau, et que malheureusement on n'a pas vu. Et donc toute la tactique qui avait été mise en place par Genesio et qui était, je pense, basé quand même sur le fait que Fekir allait justement être dans cette zone-là pour pouvoir poser des difficultés au milieu de terrain, ce qui a quand même été le cas par le pressing haut qu'ils ont fait, mais qui devait s'ajouter au positionnement de Fekir. Et bon, on l'a pas vu, donc dire que ouais, Marquinhos il a gagné ses duels, que Verratti a pas été trop mal.
Est-ce qu'il avait arrêté?
Certes, mais c'est parce que en même temps, ce qui a été préparé à la base,
non mais
et les mettre en difficulté, on l'a pas vu.
Non mais moi là, je te rejoins pas parce que je pense que mine de rien, alors c'est la blessure de Fekir, c'est le joueur le plus important, le capitaine.
Ouais, c'est mais, pas rien quand même.
Mais non, mais mine de rien, ça facilitait le jeu de possession des Lyonnais. Pourquoi? Parce que au départ, ils sont à 2 contre 2 hein dans le milieu de terrain. Il y a Ndombele, Touzard pour Verratti, Marquinhos avec Neymar qui a le même rôle si tu veux qu'un Fekir en face.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Donc si tu veux, ils sont en égalité numérique. Le fait d'avoir sorti donc Fekir sur blessure, il a remis Genesio Cornet sur un côté, ils sont passés à 3 sur la largeur devant. Et là, Aouar, il est revenu dans le milieu de terrain pour faire un 3 contre 2. Et là, je te rejoins, si tu veux, c'est que là, dans l'animation, quand ils avaient le ballon, les Lyonnais, mais à 40 mètres du but parisien, ils étaient très à l'aise parce qu'il y a toujours une supériorité. En plus, avec un Depay, voire un Cornet qui rentrait pour mettre vraiment de la densité dans ce milieu de terrain, les trois parisiens, parce que je vais inclure Di Maria, ils se retrouvaient à courir un petit peu dans le vide. Mais pour avoir le ballon, je te parle. Après, quand ça se rapprochait du but parisien, quand la défense, du moins il y a 7 joueurs face au bloc lyonnais, là les Lyonnais ont eu beaucoup de mal à sortir de l'engrenage parisien.
C'est sûr, mais d'un autre côté, il leur manquait quand même le mec qui fait la différence. Ce que je veux dire, c'est que à la limite, ils auraient peut-être perdu 10 ou 15% de possession de ballon.
Qui pouvait embêter plus
mais
Marquinhos,
qui les aurait vraiment mis en difficulté sur sa qualité technique pure. C'est comme si demain on enlevait Neymar quelque part. Alors toute proportion gardée, mais si tu vois ce que je veux dire, Jérôme, c'est que t'as un mec qui fait la différence, qui est capable de déclencher des frappes, des buts, les coups de pied arrêtés, et tu leur enlèves ça. Donc effectivement, peut-être qu'à 40 mètres, en changeant tactiquement, ils étaient un peu plus à l'aise, mais ils ont pas réellement mis Paris en danger parce que à la base, ce qu'avait pensé Genesio, c'était pas le fait d'avoir mis, c'était le fait de s'appuyer sur Fekir qui allait venir s'intercaler entre au milieu de Marquinhos et Verratti. C'était ça sa position de base.
Ouais, non, mais après, de toute façon, on saura jamais.
Là, il aurait touché combien de ballons? Il aurait touché.
Non, mais
fois il aurait orienté sur les côtés, il aurait pu jouer en
là, je peux pas te contredire parce que de toute façon, ce qu'ils ont réussi à faire à City, et je suis bien placé pour ça, j'ai commenté le match, c'est exactement dans ce dispositif-là, avec un Fekir qui a posé des gros problèmes au milieu de terrain de City. Mais autant je peux pas te contredire, mais on peut pas le savoir parce que il est sorti au bout, il s'est blessé au bout de 4 minutes. Et c'était trop tôt, voilà. Il y a eu un but parisien derrière qui a aussi facilité la tâche des Parisiens dans ce côté très défensif.
C'est sûr.
Johan, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Si je peux rajouter un dernier point quand même, je voudrais encore dire un petit truc. Moi, je suis pas vraiment d'accord non plus parce que je pense que la sortie de Cavani, c'était une erreur de Tuchel et c'est un signe.
T'aurais fait comment, toi?
Moi, j'aurais sorti Mbappé. Mbappé, il a tout loupé ce qu'il a fait en première mi-temps. Moi, j'aurais sorti Mbappé. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que Tuchel, là, avec tout ce qu'on nous dit, nanana, les bisous, les trucs, tout ce qu'on veut, il a remis Neymar en direct, tout ce qu'on veut. Moi, pour moi, il suit exactement le même chemin que les autres entraîneurs de Paris, c'est-à-dire qu'il a pas la main sur le groupe. Et ça, c'est un signe. Il aurait jamais dû sortir Cavani.
Pour Cavani, Mbappé, moi je suis d'accord avec toi, mais après c'est toujours la même histoire, c'est quand t'as gagné t'as forcément raison, mais tu peux pas savoir si sans fait un autre changement t'aurais pas eu raison aussi parce que Cavani aurait pu mettre
le match en sortant Mbappé, enfin en sortant Mbappé on aurait perdu.
Cavani
aurait peut-être bien quadruplé.
C'est pour ça que ça ne peut jamais être un raisonnement de dire t'as raison parce que t'as gagné, parce que tu sais pas quelle peuvent être les autres configurations.
C'est qu'il prend le même chemin dans le sens où Cavani, c'est le mec qui est simple à sortir.
Oui,
c'est facile de sortir Cavani. Il va jamais rien dire.
Et ça,
c'est le problème. C'est ça le problème.
Voilà.
De Paris, depuis des années qu'on a le Qatar.
Franchement, je crois que s'il sort Mbappé, je vois pas Mbappé aller taper un scandale.
Exactement.
Mais je pense pas pour ta deuxième partie de phrase, pour nous sur la première. Malgré tout, après c'est toujours pareil avec les joueurs, ça dure ce que ça dure. Hein. Mais pour l'instant, il a dans le rapport avec les mecs, il a mieux démarré par exemple que Emery quand il est arrivé. Ça veut pas dire qu'il est meilleur entraîneur, mais d'un point de vue du management et de la façon dont il a été accepté par les mecs, son attitude a été visiblement mieux accepté. Ça c'est une réalité. Et comme il y a une dimension, et c'est la dimension, j'ai presque envie de dire principale aujourd'hui qu'attendent les joueurs, c'est le rapport avec l'entraîneur. De ce côté-là, il est plutôt en réussite. Mais encore une fois, ça ne présage en rien de ce qui peut se passer dans les gros matchs, parce que c'est pas parce que tu fais 1000 câlins, 1000 bisous et que t'adores l'entraîneur que forcément tu vas être meilleur au moment où arrivera le gros match. Je crois pas que ce soit parce que Emery était ceci ou cela que contre le Real les mecs se sont endormis l'année dernière sur les deux matchs.
Ça, Johan, merci à toi et bonne soirée, à très bientôt dans l'After. Ciao. Dans quelques instants, les drôles de l'âme, le foot européen, toutes vos questions sur l'actu des clubs de Simone Rovera en Italie, de Julien Laurence en Angleterre, de David Lorto en Allemagne ou encore de Fred Hermel en Espagne. Évidemment, c'est tout de suite dans l'After, on vous attend au 32-16.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Daniel Riolo, Jérôme Rotten. Et attention, messieurs, dames, je vous demande de les accueillir en grande pompe, évidemment, parce que certains se sont déplacés en studio. Simone Rovera, par exemple.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Simone, bonsoir. Très bon. Qui est italien ce soir?
Oui. Bah, on parle pas de trop d'Italie ce soir concernant la sélection, quand même.
David Lorto, de retour de Magdebourg.
Salut Gilbert, salut à tous. J'ai regardé un peu l'Italie, je suis d'accord avec Simone.
On va en dire un mot de ce match amical. Fred Hermel est également en ligne avec nous depuis Madrid. Salut Fredo.
Hola chicos, moi aussi je me suis déplacé de la table où j'ai dîné au canapé depuis lequel je fais cette émission.
Ah, faut savoir que Fred Hermel est toujours très bien installé dans son canapé, il s'est fait une petite installation à la maison.
Est-ce que ton dîner était réussi ou est-ce que c'était un dîner à la va-vite?
Non, assez rapide. En fait, j'ai mangé des céréales avec des yaourts. Avec
un yaourt. Qu'est-ce
qui se passe? Avec du yaourt. Je fais attention à mon corps. Bah ouais, je fais attention à mon corps.
T'as arrêté les entrecôtes au dîner?
Ouais, en fait, j'ai fait un gros plat de pâtes vers 17h, tu vois, j'avais pas mal de pâtes. Ouais, et donc, bah, tu vois, ce soir, j'étais un peu ballonné, tout ça, je me dis, allez, très un bien. Petit truc léger.
Il est là également, lui aussi, messieurs, dames, Julien Laurence à Londres. Julien, bonsoir.
Salut à tous.
Salut Julien.
Tu as lu la dîner il y a 3h, hein, l'heure anglaise, tout ça. Bon.
Ah, oui, à 18h, on mange. 5h.
Messieurs, je vous rappelle le principe du soir. Vos questions directes sur Direct Studio, sur le hashtag RMC Live au drôle de l'âme concernant les clubs. Parce que d'ores et déjà, vous avez un rendez-vous dimanche pour parler de vos sélections. Hein, parce que dimanche, il y aura un after de 3h entre 21h et minuit. Donc ce soir, on se concentre sur les clubs.
Est-ce qu'on peut avoir un programme des matchs?
Ah, attends, bah non, on a dit qu'on parlait des nations.
Juste le programme, pour savoir.
Il y a quand même un petit mot nation, parce que l'Italie joue un amical ce soir face à l'Ukraine, du gardien mythique Piatov, 65 ans, mais toujours là. Il y a eu un parfait.
Une boulette, Piatov.
Ouais, mais c'est là, Piatov, sinon on n'aurait même pas marqué un but.
En 30 secondes, Simone, après on parle des clubs.
Hein. En partout, plutôt décevant en Italie, même s'il faut le dire, et ça rend encore plus l'image de cette soirée décevante, c'est probablement le meilleur match de 2018 de l'Italie.
C'est dire.
Pas mal Marco Verratti, là aussi je pense un de ses meilleurs matchs depuis des années. On a joué sans attaquant et on a eu vraiment de la difficulté à marquer un but qui arrivait sur une boulette de Piatov. Et les cadeaux, on l'a refait quelques minutes plus tard, donc égalisation pas logique, mais bon, au final, si on a pas fait un grand match, et ça montre vraiment les limites de cette sélection.
C'était vous. Vous voulez donner, alors, votre programme rapidos de sélection, mais très vite, David.
Samedi soir, Pays-Bas-Allemagne, 20h45.
Match officiel.
Et la France, 3 jours plus tard.
Très bien. Fred, t'as quoi au programme?
Galles-Espagne amicale demain et lundi, Espagne-Angleterre dans le cadre de la Nations League.
Julien, en Angleterre, que se passe-t-il?
Ça comme affiche, hein.
Donc avant d'aller en Espagne, nous on va en Croatie vendredi, deux gros matchs à l'extérieur d'affilée pour Southgate.
L'Angleterre a les deux matchs officiels.
Angleterre vendredi soir.
Ouais. Vendredi.
Et l'Italie à la Pologne dimanche soir pour ne pas rester dernière de ce groupe. Bon voilà. Tout va bien, non?
Bah, écoute.
Allez, on y va. Première question, les gars, de Victor sur le hashtag RMC Live. Fred, raconte-nous comment ça se passe pour Ronaldo, le Brésilien, hein, je parle. Le Brésilien Ronaldo à Valladolid.
Il est revenu dans le football puisqu'il est devenu président. Il est devenu actionnaire de Valladolid, un club historique du football espagnol qui est remonté en première division cet été. Et Ronaldo Nazario, en fait, il est passionné par ça, il s'implique vraiment. C'est-à-dire que c'est pas simplement, vous savez, comme des types qui ont gagné beaucoup d'argent, des footballeurs qui mettent des sous comme ça. Non, non, il s'implique énormément. On le voit dans la tribune d'honneur comme président. Il a plein d'idées et ils sont ravis à Valladolid parce que vous imaginez une légende du football diriger ce club qui a quand même connu des heures un peu difficiles ces dernières années. Et ben voilà, un vrai président, pas qu'un fantoche.
Est-ce que ce club a déjà connu une belle période?
Ah oui, il y a eu une période, oui, bien sûr. Non, c'est un club historique, hein. Ils ont été plus souvent en première division qu'en deuxième division.
Mais Ronaldo, il est là physiquement tout le temps?
Non, parce qu'il vit beaucoup à Madrid, il va souvent au Brésil, il adore Paris, là.
Parce que Valladolid, c'est pas la ville la plus dingue.
C'est pas la ville la plus sexy, puis il fait froid. En fait, c'est dans Castille, hein. C'est au nord de Madrid, c'est à peu près une heure au nord de Madrid, il fait très froid, c'est, voilà. Mais il va au match, il fait le boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il s'implique vraiment comme président, donc c'est pas que pour l'image, c'est son club, il s'investit, il a plein de projets, donc super nouvelle pour le foot espagnol que le plus grand attaquant de tous les temps soit le dirigeant de cette équipe sympathique de la Castille.
Hub demande à David Lorto, mon cher Lorto, explique-nous comment en Allemagne les autorités arrivent à gérer parfaitement bien les déplacements de supporters alors que c'est des déplacements qui sont massifs à chaque fois.
Alors parfaitement bien, ce serait peut-être un peu simpliste de dire ça parce que malgré tout, il y a quand même aussi en Allemagne, il y a des clubs qui ont affaire à ça en ce moment, des vagues politiques, des messages qui sont exprimés dans les stades. Le dernier en date, c'est le Werder Bremen qui est obligé de gérer un peu de la part de ses supporters des messages politiques un peu trop forts et un peu trop extrémistes. Mais pour ce qui est des déplacements de supporters, oui, effectivement, ça se passe bien. On n'a pas rencontré en Allemagne les problèmes qu'on a rencontrés en France. Pourtant, les distances sont sensiblement les mêmes. Pourtant, les modes de déplacement sont sensiblement les mêmes. Peut-être que ça vient tout simplement du cette espèce de cliché qu'on a l'habitude d'exprimer, que c'est un football peut-être plus familial dans les tribunes et que tu te déplaces
peut-être
simplement.
Peut-être aussi que c'est pas la seule chose que les Allemands font mieux que nous.
Oui, certes, peut-être, mais effectivement, c'est frappant.
Il y a un paquet de trucs que les Allemands font mieux. En gestion de d'hommes.
Après, t'as aussi une organisation autour des stades qui fait que.
Ouais, enfin, économie avec des salaires où il faut cumuler deux boulots pour avoir un SMIC en France et la moitié d'un SMIC.
Par pitié.
Non, mais c'est vrai quoi. Non, mais c'est gentil là. Mais bon.
Allez, on parle foot, au-dessus de la France, pitié.
Bah, sauf que les gens sont payés peanuts, c'est qu'il y a une misère terrible chez des gens qui travaillent 14 heures par jour.
Quand les salaires sont plus élevés.
Au niveau de la bouffe, on est au-dessus quand même.
Non mais il y a des travailleurs pauvres. Ça c'est vrai.
Non mais en Allemagne il y a beaucoup plus de travailleurs pauvres. David, explique à Daniel ce qu'on appelle les mini-jobs en Allemagne et qu'il faut cumuler plusieurs emplois pour un salaire de misère.
Voilà. Mais je sais aussi qu'il y en a en France.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres.
Oui, mais sauf qu'en France on a des lois qui protègent. Allez.
Elle est pour Julien. Cette question, elle est de Yann. Julien, est-ce que tu penses que Mo Salah finalement pourrait peut-être être l'homme d'une seule saison ou pas?
Ah, le one season wonder, yes. Comme les Anglais le disent, la merveille d'une saison. Ouais, le coup de voilà, effectivement pour toi Fred, c'est un peu ça. On avait dit ça d'Harry Kane, hein, lors de la première saison d'Harry Kane, et depuis, il s'est pas arrêté de marquer. Je pense qu'on en a parlé souvent dans l'émission, ou même dans d'autres émissions à l'antenne. La saison dernière de Mo Salah, elle est juste exceptionnelle. Ce qu'il fait, c'est incroyable et il sera jamais capable de refaire ça en termes d'efficacité, parce qu'on l'a dit, hein, il se crée par exemple aujourd'hui plus d'occasions qu'au même stade la saison dernière. Simplement l'année dernière, une demi-occasion ou un quart d'occasion, il l'a transformé en but. Et ça, même Messi et Ronaldo, voilà. Et les occasions normales, je vais dire entre guillemets. Ça faisait but à chaque fois, mais les demi-occasions ou les quarts d'occasion, comme le but de l'année FIFA par exemple contre Everton, où il doit faire tout seul, il finit par mettre le ballon enroulé pied gauche, lucarne opposée, qui est normalement pas un but.
FIFA, je veux dire. Ça devait être Ronaldo, mais enfin bon bref.
Oui, ou ça devait être Bale, c'est sûr, mais bon bref, ils ont choisi celui-là. Mais voilà, c'est à ce niveau-là, c'est que l'année dernière, un quart d'occasion, il l'a transformé.
Bah, t'en penses quoi, toi, aujourd'hui, tu dis quoi?
Moi, je pense qu'il va encore marquer 25 buts dans la saison, mais il marquera pas 44 buts comme l'année dernière. Ça, c'est sûr.
Mais ça se dit. On a, les consultants là, les fameux là, qui parlent beaucoup, qu'on entend, Carragher, Neville
et tout ça,
Lineker,
ouais.
Et tout. Ils en disent quoi de ça? Ces gens, ils se sont exprimés là-dessus?
Ouais, il dit. Alors, c'est un peu pareil. C'est l'année dernière, c'était en termes de réussite et d'efficacité encore une fois exceptionnel. son taux de conversion frappe, but, occasion, comme je l'ai dit, occasion, demi-occasion transformée, les fameux expected goals et tout ça, c'était incroyable. Et c'était sûr qu'à un moment il pouvait pas maintenir cette moyenne encore une saison où ce serait vraiment très compliqué. Mais regarde, l'année dernière au même stade de la compétition, il avait marqué un but de plus en championnat que cette année pour l'instant. Donc c'est pas non
Jérôme,
plus
toi, souvent en Angleterre pour la première ligue.
Bah, écoute, mais Julien, c'est vrai que l'année dernière elle était incroyable. Alors après, il est en droit de faire pareil ou peut-être d'améliorer. Ça va être difficile, mais quand tu mets 44 buts dans une année, c'est ahurissant. Après, c'est un joueur qui a toujours marqué des buts de toute façon, hein, même quand il était à Rome, il en a marqué.
Jamais autant que l'année dernière.
Ben non, mais, bah, mais pas autant. Une vingtaine par année, c'est déjà pas mal depuis 2-3 ans. Cette année, il est à 3 buts en 8 matchs. Il faut se souvenir aussi que il a eu une Coupe du Monde très compliquée avec cette blessure. Il est revenu juste pour jouer des bouts de match ou des matchs à 50%. Donc des vacances, préparation tronquée aussi. Là, il a vite repris. Il faut laisser le temps. Je pense que le meilleur de ça là, on le verra pour les fêtes de Noël, je pense, à mon avis, et il finira l'année en fanfare.
Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui ferait qu'il faille attendre? Je veux dire, il a pas fait une coupe du monde.
Mais non, parce que tu sais, il porte toujours un strap pour l'épaule aussi.
Exactement.
Je suis pas persuadé que l'épaule elle soit complètement à 100%.
C'est même sûr, parce que j'ai parlé avec Sadio Mané la dernière fois, et il nous disait que c'était aussi il me disait que c'était par moment un petit problème pour lui, parce que il se la touche souvent, donc il doit ressentir des douleurs qu'il ne sentait pas l'année dernière. Et puis il y a une préparation, voilà, qui fait que comme tous ceux qui ont joué la Coupe du Monde, la préparation est tronquée. Donc ça veut dire que quand t'as pas une vraie préparation physique, eh ben t'as des irrégularités, manque de constance dans tes matchs, et ça se ressent. Pour l'instant, il fait des bons matchs, mais il a des trous encore, ce qu'il avait pas l'année dernière. Et je pense que une fois qu'il aura récupéré tout ça, attends, le talent, il a
mis 20 buts dans une saison.
Il a mis
14 et 15.
14, ouais, mais en plus, championnat. 14 et 15.
En championnat, ouais, mais tu rajoutes en Coupe d'Europe.
Je pense qu'il arrive à 18.
Pendant ce temps-là, David Lortos s'en fout. Il lit le résumé de Ingolstadt, Union Berlin dans Kicker.
Exactement.
Il y a une Magdebourg Dresde aussi ce week-end.
Il a jamais été.
Non, mais aujourd'hui,
l'année dernière, c'est extraordinaire dans son parcours.
Non, mais en termes de le ratio au casse-but, bien sûr que c'était fantastique. Mais ce qui est intéressant encore, même en étant à 70-80%, c'est qu'il se crée beaucoup d'occasions encore. Donc avec le pied gauche qu'il a et la sensation devant le but, il en marquera des buts. Après, de dire qu'il en mettra 44, on n'est pas devin. Hein.
Dans quelques instants, on continue. Tiens, dans quelques instants, je vous demanderai à tous quelle est votre petite équipe qui vous plaît, qui joue bien, qui peut créer des surprises dans vos championnats respectifs. Et puis Simonet, on parlera de la Fiorentina avec toi, parce qu'il y a pas mal de questions concernant la Fiorentina et Alban Lafont, qui paraît-il fait un très bon début de saison. Donc il nous confirmera ou pas dans quelques instants. Les drôles de l'âme sont là avant l'équipe type et l'équipe pipe de l'histoire de l'AS Saint-Etienne, et on aura une belle surprise tout à l'heure dans l'after, vous verrez. Il en revient, à tout de suite.
Bon. RMC Football Show, l'after foot.